King Nomad.
Bonjour, je suis Camille Deslauriers. Bienvenue à l'émission Sous l'influence des livres, le volet Rimouski de Parking Nomade, enregistré à l'Université du Québec à Rimouski. D'abord, chères auditrices et chers auditeurs, j'aimerais vous souhaiter une merveilleuse année 2014, une année que je vous souhaite pleine de découvertes littéraires plus fascinantes et plus marquantes les unes que les autres. Ce mois-ci à l'émission, dans un premier temps, nous recevons Madame Louise Dupré, poète, romancière et nouvelière, qui est venue à l'UQAR dans le cadre d'une table ronde et d'un atelier d'écriture donné aux étudiants du baccalauréat en lettres et création littéraire, et qui a accepté de venir nous parler de son écriture, de son rapport au genre littéraire, et plus particulièrement d'un de ses livres, le recueil de nouvelles « L'été funambule », paru chez XYZ Éditeur en 2008. Dans un deuxième temps, nous allons enchaîner avec une capsule d'histoire littéraire. Nous recevrons M. Claude Lacharité, qui va nous parler de Toussaint-Cartier, ermite de l'île Saint-Barnabé et personnage de fiction littéraire. Enfin, dans un troisième temps, nous allons reparler avec Louise Dupré et, suivant notre tradition, et aussi pour rester fidèle à ce qu'indique le titre de notre émission, nous allons aborder ses lectures phares, son rapport à la lecture et l'influence de certains livres ou certains auteurs marquants dans sa démarche d'écrivaine. En fin d'émission, nous aurons l'honneur d'entendre la nouvelle « Fin de soirée » du recueil « L'été funambule » et nous aurons le plaisir d'entendre l'auteur elle-même nous la lire. Alors, nous accueillons aujourd'hui à l'émission Madame Louise Dupré. Bonjour Louise et bienvenue à l'émission.
Bonjour Camille, merci de votre invitation.
D'abord, Louise, j'aimerais qu'on parle un peu de votre rapport au genre littéraire. Après avoir publié 8 recueils de poésie, dont « Noir déjà et tout près », 2 romans, dont « La Memoria » et « La Voie lactée », des tableaux qui ont été joués au théâtre, tout comme elle, vous avez décidé d'écrire et de publier un recueil de nouvelles. Qu'est-ce qui fait que, dans ce projet-là, pour raconter ces histoires-là, vous avez privilégié cette fois l'esthétique de la brièveté et le genre de la nouvelle?
En fait, j'ai commencé à écrire de la poésie très jeune. J'ai publié plus tard parce que je n'osais pas publier. Mais dès mes premières publications, des amis m'ont invité à écrire des nouvelles. D'accord. Et j'ai eu des commandes de revues, par exemple de la revue XYZ, de la revue Moebius, de la revue Arcade, qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Donc, j'ai commencé à écrire des petits textes. Des petits textes qu'on peut qualifier de nouvelles, mais qui appartiennent à ce qu'on pourrait appeler la nouvelle instant.
D'accord.
Parce que ce qui m'intéresse, c'est moins de raconter une histoire que de donner des impressions d'un personnage. Évidemment, dans une nouvelle, il y a toujours un personnage et des bribes d'histoire, d'une narrativité nécessairement qui est minimale, mais qui existe quand même. Mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment les impressions, les émotions du personnage, une petite situation. Et mes nouvelles ne sont pas très loin de la vision d'un poète.
Oui,
c'est-à-dire
vrai.
Que je m'intéresse aux petites choses, à ce qu'on ne voit pas d'habitude. Je raconte ce qui ne mérite pas d'être raconté. En ce sens-là, ce sont des instantanés.
Oui.
Ce sont comme de petites scènes, des tableaux, des petites photographies. Et voilà, donc j'ai commencé de cette façon-là et je trouvais que c'était une alternative à l'écriture poétique.
D'accord.
Alors j'écris dans des nouvelles ce qui ne trouverait pas ses mots dans la poésie.
Dans la poésie, ah c'est intéressant. Deuxième question maintenant, Louise. L'été funambule nous fait entrer justement successivement, vous l'avez évoqué brièvement, dans l'univers d'au moins 25 personnages. Ici, 25 femmes différentes, si on ne compte pas les personnages secondaires et si on ne compte pas la narratrice du premier texte, dans le fond, qui est une mise en abîme peut-être de toutes les autres, si on veut. Donc, 25 femmes qui sont toutes à leur façon, des funambules qui tentent de maintenir un fragile équilibre ou qui veulent veulent le maintenir malgré les grands et les petits vertiges de la vie ou qui tentent de reprendre leur équilibre ou perdent momentanément l'équilibre au sens figuré, bien sûr. Donc, j'aimerais savoir comment sont nés tous ces personnages de femmes à la fois différentes et semblables et de quoi, dans le fond, vous vous inspirez pour créer ces personnages-là et pour créer, je dirais, autant de personnages parce que c'est ça un recueil de nouvelles aussi, ce sont des personnages qui se succèdent.
Oui, ce sont des personnages qui se succèdent, mais relisant le recueil pour cette émission, je me disais qu'il y a peut-être moins de personnages qu'on ne pense.
Ah bon?
Parce que le point de vue narratif est toujours celui d'une femme.
Oui.
Une femme qui est peut-être au milieu de sa vie
oui.
et qui regarde à la fois derrière elle et qui regarde devant.
Oui.
Elle est à l'âge où certains choix ont été faits, où certains bonheurs sont arrivés, où il y a eu aussi nécessairement des douleurs, des désillusions. Et elle se demande de quoi sera fait l'avenir. Et en ce sens-là, bon, l'été funambule. Pourquoi l'été? Parce que la plupart des nouvelles se passent l'été.
Oui.
J'ai découvert ça quand j'ai décidé de faire un recueil de ces nouvelles-là. Et funambule parce que les femmes marchent toutes sur une corde raide où elles essaient de tenir un équilibre dans leur vie parce qu'on est à une période où il est facile de tomber.
Oui.
Et on voit plusieurs personnes, par exemple, qui font des burn-out, des dépressions, ou même des personnes qui s'enlèvent la vie, des personnes qui sont vraiment très blessées. On vit une période vraiment importante, intéressante, où la subjectivité peut s'exprimer, mais c'est quand même pas une période facile. Et ces femmes-là essaient toutes de faire un certain bilan de leur vie passée pour mieux réorienter le présent et évidemment l'avenir.
Oui, parce que la vie prend toujours le dessus, ne serait-ce que de façon infime. À la fin des nouvelles, on sent que la vie prend le dessus.
Oui, il y a un désir de vivre chez ces femmes-là, un désir de vivre qui fait en sorte qu'elles sont prêtes à accepter les difficultés de la vie, mais parce que ce sont des femmes fortes, finalement. Fragiles, quand même. Fragiles et fortes. Ce sont des personnages contradictoires, mais comme nous,
effectivement. Mais c'est intéressant parce que j'allais dire que c'est un mot qui revient peut-être, un des mots qui revient le plus souvent dans votre recueil, le mot fragilité. Hein. Je l'avais noté. Donc, fragile et forte à la fois, c'est vraiment un magnifique recueil.
Tan solo tuviera cerca de mí su caricia, como a la tierra el aire se la da. La realidad de su persona me haría más alegre, me alejaría del sentido que me llena de gris. Ya sería en mí tan hondo, tan final.
Bonjour, ici Catherine Gosselin. J'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Claude Lacharité. Claude Lacharité, bonjour.
Bonjour Catherine.
Vous êtes ici pour nous parler de Toussaint Cartier. Donc Toussaint Cartier est un personnage tout à fait fascinant, un personnage singulier qui a vécu pendant près de 40 ans tout seul sur l'île Saint-Barnabé au large de Rimouski. Donc, on le connaît comme l'ermite de l'île Saint-Barnabé. Or, par ailleurs, Toussaint Cartier, c'est aussi le personnage de nombreuses fictions littéraires. Donc, vous êtes ici pour nous parler un peu de cette double vie de Toussaint Cartier. Donc, d'abord, parlons des faits. Que sait-on exactement au sujet de Toussaint Cartier?
Eh bien, très peu de choses, en fait. Hein. De son vivant, on a conservé uniquement 3 documents d'archives, qui sont évidemment des actes notariés, comme tout acte notarié qui se respecte, sont des documents qui ne nous disent à peu près rien, à la fois du lieu d'origine de Toussaint Cartier et des motivations qui l'ont amené à se faire ermite. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'il est donc arrivé à Rimouski en 1728 et que dès son arrivée, il va s'établir sur l'île Saint-Barnabé où il va vivre jusqu'à sa mort en 1767. En fait, on raconte qu'au moment de mourir, on l'aurait, ramené sur la terre ferme, sur le continent, et il se serait éteint là, quelques heures après dans la maison du seigneur de Rimouski, Monsieur Lepage.
Fascinant. On a dit donc qu'il était devenu le personnage de nombreuses fictions littéraires. Donc, pouvez-vous nous en parler un peu, nous parler de ces fictions, de ces récits, de ces textes qui parlent de Toussaint Cartier de différentes manières?
Oui, alors visiblement, donc beaucoup de gens se sont intéressés à l'ermite peu de temps d'ailleurs après sa mort. Et faute de trouver finalement des documents suffisamment détaillés pour comprendre l'énigme qu'il représente, les gens se sont mis en fait à inventer l'histoire de l'ermite. Hein, à raconter leur propre version. Et ça se produit en réalité seulement 2 ans après sa mort. On a une romancière britannique qui s'appelle Frances Brooke qui publie un roman épistolaire intitulé « The History of Emily Montagu ». Et dans ce roman, donc, un des personnages va en fait rencontrer l'ermite sur l'île Saint-Barnabé pour essayer de voir ce qui l'a poussé à se faire ermite. Hein. Et on a dans le roman de Frances Brooke, donc, une variante très intéressante de l'histoire de l'ermite qui est en fait l'histoire d'un homme qui a fait la traversée avec une femme qu'il a épousée de façon clandestine en France. Et au moment d'arriver donc en Nouvelle-France, de l'autre côté de l'Atlantique, le navire aurait fait naufrage, si bien que la bien-aimée donc aurait finalement péri l'accident. Et ce qui aurait amené l'ermite à vouloir consacrer le reste de sa vie à la mémoire de sa bien-aimée et donc à attendre la mort, qui est aussi le moment où il va retrouver sa bien-aimée. Mais c'est pas du tout le seul exemple. Il y a de très nombreux autres exemples de fiction littéraire qui vont également mettre en scène l'ermite Toussaint Cartier. C'est le cas, par exemple, d'un abbé qui s'appelle Louis-Édouard Bois, qui va écrire tout un roman qu'il ne publiera jamais de son vivant, mais qu'il a sans doute rédigé vers les années 1860. Et son roman s'intitule simplement Toussaint Cartier ou l'ermite de l'île Saint-Barnabé. Et en fait, dans ce roman, l'abbé imagine que Toussaint Cartier est un descendant de Jacques Cartier, qui est un écrivain donc extrêmement ambitieux, qui veut refaire en mieux les relations de voyage de son ancêtre, qui décide donc de faire la traversée pour justement arriver à ses fins. Sauf que, évidemment, le bon Dieu est là qui veille, qui va le châtier de son orgueil et qui va, évidemment, faire couler le navire. Et au dernier instant, évidemment, l'orgueilleux écrivain va se repentir et va faire une sorte de marché avec Dieu en disant « Si tu me laisses la vie sauve, je te promets de consacrer le reste de mon existence à la prière et au recueillement. » Et puis, bon, je pourrais continuer comme ça la liste très longtemps. Je citerai simplement peut-être le dernier exemple en date. Il s'agit de Jacques Poulain, qui parle lui aussi de l'ermite Toussaint Cartier dans « Les Grandes Marées » publié en 1978.
Donc, un personnage qui a beaucoup voyagé dans les textes, énormément. Il y a aussi, vous n'en avez pas parlé, mais donc un autre texte de Joseph-Charles Taché qui parle de Toussaint Cartier. Donc, dans ce texte, Taché va proposer que Toussaint Cartier serait tout simplement un homme qui aurait cherché à faire son salut à travers sa vie d'ermite. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce texte de Joseph-Charles Taché et de la position qu'il fait valoir?
Oui. Alors, en fait, Joseph-Charles Taché prétend simplement s'appuyer sur les documents d'archives qui viennent d'être retrouvés pour la première fois au 19e siècle. Et donc, l'expression « faire son salut », c'est l'expression qui est utilisée dans l'acte notarié de 1728 lorsque le Seigneur concède une partie de l'île Saint-Barnabé pour que Toussaint-Cartier y vive. Alors, Joseph Charles Taché cherche de cette façon-là à récuser la version romanesque de Francis Brooke en disant « ça n'est pas parce que c'est un homme, qui est endeuillé, qu'il a décidé de se faire ermite, c'est simplement parce que c'était un homme qui avait une spiritualité particulièrement riche. » Sauf que, malheureusement, dans le contexte du 18e siècle, cette version édifiante de l'ermite est tout à fait impossible pour une raison simple, c'est qu'en réalité, l'érémitisme de la vie, donc solitaire, est une forme de religiosité qui est réprimée par les institutions, à commencer par l'institution religieuse elle-même. D'accord. Quand on veut, je dirais, avoir une vie particulièrement riche sur le plan spirituel, à l'époque, soit on se fait moine, soit encore on entre dans les ordres missionnaires, on se fait jésuite ou récollet, mais pas du tout, en fait, ermite, parce que très souvent, les ermites que l'on voit en Europe à cette époque-là sont en réalité de faux ermites, sont des gens qui prennent l'habit d'ermite pour simplement mendier. Donc, ce sont des espèces de mendiants et de vagabonds, et l'Église, évidemment, n'aime pas du tout ce genre d'individus qui font désordre dans l'ordre social souhaité par l'Église, et donc, par tous les moyens, cherche à réprimer les ermites, et c'est vrai en France comme en Nouvelle-France.
Merci beaucoup, Claude Lacharité, pour cette passionnante histoire de Toussaint-Cartier. Merci.
Merci, Catherine.
Nada comparable a tus manos, ni nada igual al oro verde de tus ojos. Mi cuerpo se llena de ti por días y días. Eres el espejo de la noche, la luz violenta del relámpago, la humedad de la tierra. Tus axilas es mi refugio, mis yemas tocan tu sangre, toda mi alegría es en ti, la vida de tu fuente flor.
Nous sommes de retour avec Louise Dupré pour le troisième segment de notre émission. Louise, si vous deviez identifier deux ou trois auteurs marquants qui ont joué un grand rôle dans votre parcours de lectrice ou d'écrivaine, quels sont les noms qui vous viendraient à l'esprit et pourquoi?
D'abord Flaubert, parce que je l'ai étudié à l'université, je l'ai beaucoup lu et je trouve que c'est un écrivain magnifique sur le plan technique, sur le plan de l'imaginaire aussi, mais sur le plan de technique de l'écriture, c'est vraiment un écrivain que j'admire beaucoup. Deuxièmement, Marguerite Duras, que j'ai découverte beaucoup plus tard. Elle a un imaginaire féminin extraordinaire aussi, qui va chercher une subjectivité totalement inconsciente chez beaucoup de femmes et qui me fait écrire. Troisièmement, Anne Hébert. Anne Hébert, la magnifique, et je parlerai surtout de son roman Kamouraska, que je considère comme le plus grand roman québécois.
Merci beaucoup. En contrepartie, parce qu'on est aussi curieux, comme tous les mois, je vais me permettre de vous poser une question un peu plus inattendue, parce qu'on aime bien mieux connaître nos invités en tant que lecteurs. Quelles seraient les œuvres ou les livres qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans la bibliothèque de Louise Dupré?
Écoutez, si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais dit des romans policiers.
D'accord.
Parce que j'aime bien le roman policier. Malheureusement, j'ai dû m'en départir parce que je n'avais plus de place. Des livres aussi sur les animaux.
Ah,
parce
oui,
que
bon?
Je m'intéresse à la psychologie animale. Et j'ai des livres, par exemple, de Conrad Lorenz, et ce sont des titres qui m'intéressent vivement.
D'accord.
Et dans une autre vie, peut-être, que je prendrai cette voie-là.
D'ailleurs, vos personnages ont souvent des chats en particulier.
Oui, j'adore les chats et j'ai plusieurs livres sur la psychologie des chats.
La psychologie féline, c'est intéressant.
Fin de soirée. Après, on regarde la nappe comme une ville pillée, les cercles de sauce qui croisent les taches de vin, les croutons de pain déchirés, les verres bordés de lèvres rouges. On se rappelle les bouches qui tantôt s'étiraient pour engloutir les viandes, le mouvement mécanique des mâchoires. Et pourtant, la discrétion absolue, la distinction, la retenue des corps qui ont laissé derrière eux les goinfreries de l'enfance. On s'étonne que, malgré les belles manières, le chaos ait ressurgi. Quelques instants d'oubli, l'abandon au plaisir des choses simples. Seul maintenant, on débarrasse, on range. On accomplit le trajet répété de la salle à manger à la cuisine. On rince, on lave. On jette un regard admiratif sur les fleurs délicates de la vieille porcelaine, comme on le faisait, fillette, quand on replaçait dans sa boîte le minuscule service de vaisselle hérité d'une grand-tante. À chaque visite des cousines, on dressait la petite table, nappe rose, coutellerie de plastique imitant l'argenterie, puis les assiettes, les tasses et les soucoupes. On allait chercher dans la cuisine des biscuits et de l'eau chaude vaguement parfumés de thé qu'on dégustait en bavardant. Cela s'appelait jouer. Les cousines, on ne les voit plus. Mariées, des enfants. À peine avait-on su que Sylvie était dépressive. Incompréhensible, avait dit sa mère, une si belle maison, que peut-on désirer de plus? On n'avait rien répondu. On avait eu l'idée de lui téléphoner, de l'inviter. Mais à quoi bon se retrouver l'une devant l'autre comme des étrangères? Autour de la table tout à l'heure, il y avait des rires, des anecdotes, des souvenirs. La République tchèque, la Suisse, la Finlande, le Québec aussi, celui des années 50. Le besoin d'ancrer le présent dans le passé, on se créait une intimité. N'avait-on pas fait le deuil de ces premiers paysages pour être là, ensemble, vivante de toute vie? Est-ce Maria ou Karina qui a proposé un toast à l'amitié? Peu importe. On revoit les verres teintés au-dessus de la flamme des chandelles. On est encore ému de la douceur du moment. Le miracle. Espérer que ce petit geste puisse conjurer le mauvais sort. Sur le visage, les années qui lentement se sont incrustées dans la chair, on pense de plus en plus souvent à la peau parcheminée de sa mère. 2 ans que je ne l'ai pas vue, a murmuré Eva en essayant de dissimuler un sanglot. L'habitude de vivre sans se retourner, les yeux secs, on assume ses choix, on fait face à la réalité. Pourtant, la nostalgie refait parfois surface au détour d'une phrase, et on se sent défaillir, l'odeur du mois de mai, les ciels lisses, le lilas qu'on cueillait en revenant de l'école, un baiser furtif volé derrière un arbre, l'amour soumis aux contraintes du hasard. La maison a retrouvé son ordre. Il faudrait se coucher, mais on n'a pas sommeil. Seulement s'enfoncer dans un bain de mousse chaud pour étirer encore un peu la soirée. Fixer dans un repli de sa mémoire des mots qui rassurent. Nous ne nous perdrons jamais. On cherche des certitudes, du moins à cette heure bénie où il suffit de quelques illusions pour masquer le si sombre de la nuit.
Merci beaucoup à notre invitée, Louise Dupré. J'aimerais également remercier mes collaborateurs qui sont parfois aussi mes co-animateurs, Claude Lacharité, Martin Robitaille et Catherine Gosselin. Merci également à Pierre Vignola à la technique. Je vous rappelle que l'émission Sous l'influence des livres a été enregistrée à l'Université du Québec à Rimouski. Chères auditrices et chers auditeurs, au plaisir de vous retrouver le mois prochain.